français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Oxmo Puccino. Oui, vite fait.
Bien, merci beaucoup.
Parce que j'aime bien saluer des dinosaures, comme on dit, un reptile. En gros, tu es pour nous un emblème. Et on est tous ensemble avec toi, la banlieue, surtout la banlieue 77, Emeryville, Bronx. Mais en tout cas, tu l'as fait pour tout le monde. Merci beaucoup.
Merci, merci pour la force, vraiment. Alors aujourd'hui, on n'est pas en banlieue. On est dans un quartier populaire de Paris, sur les grands boulevards. Juste devant le Jamel Comedy Club. You know, the Jamel Comedy Club. Et en termes de comédie, il y a une statue. Cette statue, elle représente Redouane Arjan, tu vois, dans Paname. Et en termes d'histoire, je peux te dire qu'il en connaît un rayon. Il a quitté l'école à 14 piges pour entrer au Conservatoire National of Region of Metz, la ville où il est né, à 20 piges. Il s'installe à Paris. Il commence au cours Simon. Et quelques années plus tard, il est repéré par Jamel pour entrer dans le Comedy Club où nous sommes présentement. Donc, il cartonne tout de suite parce qu'il est complètement ouf, mais sa folie, il l'exprime d'une manière tellement spectaculaire, tellement absurde. C'est du Dali, tu vois. Donc il a tourné pour plein de gens, Michel Gondry, Sarah Forestier, patati patata. Mais ma fierté, c'est qu'il a tourné pour moi, Anti-30, en 2014, mec. Donc c'est en ligne, tu peux aller chercher. C'est moi qui ai réalisé, c'est moi qui ai écrit. C'est vrai, hein. Donc il a joué là-dedans. Et là, on va rentrer dans le Jamel Comedy Club. Il va nous raconter une petite histoire d'enfance. Voilà.
Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
Moi, j'ai grandi au Pontifroid. Pontifroid, c'est un quartier qui est un peu particulier parce qu'il est en sortie. C'est vraiment le dernier quartier avant l'entrée vers l'autoroute, la 31. T'as les casernes de CRS, t'as l'hôtel de police et derrière, t'as l'armée.
C'est un quartier sécurisant.
Cité dortoir, quoi. De ma fenêtre, on voyait l'église Saint-Clément, on voyait le Mont Saint-Quentin. C'était pas ghetto, c'était pas non plus cité pavillonnaire. Les gens vivaient bien. Esprit village, tout le monde se connaissait. Et puis il y avait de toute origine. C'est-à-dire que moi, les voisins qu'on avait en face, les Texeras, c'était des immigrés espagnols. On avait des immigrés italiens. Donc 7 étages de haut et de longueur. T'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halls d'immeubles. C'est le quartier, le Pontifroid.
Tout allongé.
C'est périphérie, mais c'était pas vraiment la banlieue, parce que le centre-ville, on y était, je sais pas, à pied, gamin, on mettait même pas 10 minutes pour aller dans le centre-ville, tu vois. Tu vois, ma maman, par exemple, à moi, paix à son âme aujourd'hui, elle travaillait à l'hôpital. Puis connue, respectée, elle voyait tout. Alors elle avait le secret, elle s'était imposée à elle-même un secret professionnel, mais c'est de la pure bonne éducation qui était que quand tu voyais un voisin venir pour un truc bien, bien chelou, elle le savait, elle le voyait tout. Elle était à l'accueil standard
d'accord.
De l'hôpital
d'accord.
Pendant plus de 40 ans. Donc ça, c'est un truc encore aujourd'hui. Par exemple, quand moi, je vais à Metz et que je me balade dans Metz, ok, moi, je suis persuadé qu'ils viennent me voir parce que genre un semblant de notoriété. Non. Donc, cette mentale-là de quartier où tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui, ça travaille. Chacun fait son argent dignement. Et c'est élégant quand les gens vivent ensemble. Il n'y a que le bon qui peut sortir quand ils acceptent de vivre ensemble. Il y avait de la poésie aussi, il y avait de la mélancolie, parce que Metz, c'est une ville quand même, faut comprendre un truc, c'est que c'est une ville de garnison, c'est un carrefour aussi d'Europe, européen, et c'est la ville de Coltès, c'est la ville de Verlaine. Alors après, on a des démons aussi, mais il y a une énergie, tu vois, c'est la street, mais il y a la poésie, il y a la mélancolie littéraire, il y a un truc comme ça.
Il y a le spleen.
Le spleen, tout à fait.
Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
Moi, à 10-11 ans, j'étais déjà dans un truc, allez... je vais partir en couille. C'est pas dans le projet, mais c'est plus, j'aime pas le foot. Moi, le foot, j'aimais y aller avec mon oncle et mon frère pour manger la saucisse blanche, tu vois, la gaise. Ils ont vite compris la supercherie, donc ils arrêtaient de m'emmener au stade. Et je me retrouvais, pas livré à moi-même, mais dans un moment où tout le monde se retrouvait ensemble, moi, il fallait que je constitue une autre équipe. Donc j'avais des potes de ce quartier, donc dans mon quartier. Je sais pas, on voulait faire les cons, on faisait des conneries, on faisait des combines. Du pont, j'étais des marrons sur les bagnoles qui passaient en dessous des trucs super dangereux, des trucs inconscients. J'étais des marrons, des mottes de terre, on a failli créer des accidents terribles. On montait sur les toits de l'école maternelle en face de la tour et des fois on rentrait dedans par les Vélux, des trucs dangereux, illégaux. Mais vu qu'il y avait le comico en face, il y avait le commissariat en face du quartier, c'était très drôle parce que les flics ne prenaient même plus la peine de se déplacer, ils sortaient le mégaphone, le gigaphone et ils parlaient de leur fenêtre en mode «
Descendez du toit !»
Et donc je prenais clairement le chemin hors scolaire. Non pas qu'on s'occupait pas bien de moi, mais j'avais envie de voler de mes propres ailes. Je trouvais c'est que la ville était trop petite pour moi, mais tout.
Mon panne, des glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h, l'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets c'est quand on se bourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris. C'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes.
Quelle est la bêtise qui fait que ta maman s'est dit là, faut que je fasse attention? Parce qu'il part dans le OG gangsterisme, tu vois.
Il faut savoir aussi que ce quartier, c'était névralgique parce qu'il y avait la médiathèque de Metz. Elle est énorme, elle a tout, petite maternelle à hautes études, livre de médecine, radiologie.
Culturellement, c'était un lieu...
Ouais, c'était région, un lieu fat, tu vois. Et ben, c'est aussi terrain de chasse, quoi. Des dragueurs, ouais, des prédateurs, des violeurs, des pédophiles. Nous, on venait là, des gamins, il y avait le Minitel. Médiathèque, 36-15 ULA, on jouait même à des jeux tennis, il y avait tennis, ping-pong sur le Minitel, on passait des heures là-dessus. Je lisais les BD, les Dalton, les Lucky Luke, Tom Tom et Nana, les vieux bails. On faisait pas de dinguerie, on vivait une vie de jeunes, de gamins, des jeunes quoi. Et il y a un gars qui vient, qui apparaît dans ce quartier, qui débarque dans le coin quoi, et donc il vient à la médiathèque. Un monsieur, un ancien prédateur,
ouais.
Donc ce type-là il commence à tourner un peu... autour des ados, machin truc, ouais, et des bonbons et tout. Et un jour, je vois les gars arriver, les potos, je les vois arriver avec des coca, des Canada Dry, des galacs, des chips et tout, à mort. Tout. Je fais, les gars, d'où ça vient tout ça? Pourquoi j'ai pas. Et ouais, c'est le gars là-bas. Il dit, non, mais ouais, il t'aime pas. Comment ça, il m'aime pas. Je le connais pas, moi, le gars. Bah, écoute, c'est qui, tu vois? Il avait une attitude étrange avec les enfants et les adolescents. Pour moi, c'est chelou. Donc moi j'aime pas ça. Ça j'aime pas ça. C'est pas quelqu'un du pas du tiercard qui dit parce qu'il t'aime pas. Et j'ai gardé en moi ça. J'ai dit ah ok, vous mangez les gâteaux. Moi je passe pas en fond de bout. Et puis en plus le gars c'est un chelou. Ça peut pas être moi le méchant dans cette affaire. Donc ce type arrive. L'endroit où il va passer, je vois, il y a une plaque d'égout. Et je vois, il y a un carton, des cartons vides de sortie de magasin, de sortie de boulangerie.
Ouais.
Je fais, ah, vas-y. Et donc je prends deux gars, deux potes à l'époque. Je peux pas donner leur nom, mais je pense à eux.
Venez, on enlève la plaque d'égout et on met le carton sur la plaque d'égout comme ça.
Et le gars, on voit arriver, il marche comme un stade. Et tu crois pas, il met les deux pieds dans le caniveau. Il est absorbé. Il s'arrive à hauteur de son bus. Il se tape la tête sur le bitume. Il se fracasse, il saigne. Je fais, oh merde. Je me dis, il va mourir. Et je vois les poteaux, ils partent en courant. Chacun part à droite, chacun part à gauche.
Comme des coupables.
Non, ils sont partis. Et je trace. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plaque d'égout, elle était en face du coiffeur. Le coiffeur, il a coiffé mon père, il a coiffé mon grand-père. Et je suis sûr qu'il a même coiffé des frères de mon grand-père. Monsieur Claude, il s'appelle, c'est Claude. Voilà, il avait un bichon magnifique. Pensez pour lui, j'adore ce monsieur. Il tenait la boutique, là, depuis des années. Et quand il coupe les cheveux, il voit toute sa... Il les passe à la vitre. Donc moi, pendant que j'étais en train de croire que j'étais un grand strat de ouf, il y avait l'un des coiffeurs, de l'illustre coiffeur de toute la ville, qui a tout vu. Et il l'a dit à ma maman. Voilà. Mais il l'a fait très élégamment, c'est-à-dire qu'il m'a pas, moi, pris à partie dehors en me disant « Hey, ça va pas, t'es fou ?» Il a dit, vu que le gars, il s'agissait quand même d'un prédateur. Et il m'a protégé, en fait. Il a dit « Ok, là, c'est chaud. » Et puis il a vu surtout que le gars a pas vu qui était le coupable de ce truc-là, tu vois, de ce malheureux accident. Donc M. Claude, il est allé voir ma maman, il l'a confronté, il lui dit « Madame Arjan Boudjani, je peux pas passer à côté de ça, je l'ai vu, il s'est passé ça, je vous le dis. » Et là, ma maman a pris peur et c'est à ce moment-là qu'elle a contacté les grands frères. Alors nous, les grands frères de mon quartier, c'était des gens... Moi, j'ai connu des grands frères de quartier, ils avaient des Santiago. Tu vois le bail ? C'était des grands frères, ils avaient des vestes en cuir, ils avaient des... C'était des
vieux grands frères.
C'était des rockers. C'était des vrais rockers. Mais c'était des rockers, c'était des gars à Santiago et Perfecto et tout, qui portaient les sacs des mamans.
Okay.
Ils étaient en bas, posés en bas, ils jouaient à la pièce, tu sais, quand tu tapais la pièce contre le mur, la plus proche et tout. Et dès qu'ils voyaient une dame sortir du parking qui venait galérer de l'arrêt de bus avec ses cabas, direct, il posait pas de questions et il montait les courses. Et il faisait que des trucs comme ça. Et nous, pendant ce temps-là, on jetait des marrons sur les bagnoles.
C'est vrai, on ne fait pas autant bien que ça. Qu'en faire, comment? Quelque chose m'échappe. Au courant de ce qu'un acte engendre, j'ai pris un peu sur moi, soigné de mes vengeances. Dans mon coin, je passais pour un lascar. J'étais pas le 11e à sauter sur un lascar. On s'attaque pas aux durs, nul n'aime les problèmes. Dans la chaîne animale, il y a la dette des trop faibles. Alors il faut forger ce tempérament, en conservant quelques séquelles apparemment. Pourtant, à chaque fois que je me suis retenu, le mal que je n'ai pas fait m'a soutenu. On fait ce qu'on peut, nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. On fait ce qu'on peut, nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. Il faut être s'il y a peu de remords, on se fait une raison à tout, même à quelques morts. Mes lois sont autres que celles des hommes. Chaque décision est un ultimatum. Notre côté obscur est mauvais conseiller. Les pires choses accomplies le sont sous la colère. C'est comme avoir des cauchemars sous l'oreiller. Le mal est en bourse, nous sommes ses actionnaires. Il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. Trop de cœur pour faire des sentiments. La plume est mon épée, la vérité, le châtiment. Ah, on fait ce qu'on peut.
Ma maman est une personne très très concernée sur mon éducation. Elle tenait absolument à ce que je ne parte pas en prison. Elle a toujours tenté de me préserver. Oui. Parce que mon père était à l'époque un prisonnier. Et je prenais vraiment le chemin pour ça. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et donc ma maman, très consciente, hein, préoccupée, a démarché donc ses grands frères, elle allait les voir en leur disant « S'il vous plaît, jetez un œil sur lui, faites ce qu'il faut faire. » Et donc, il faut savoir un truc, c'est que ces grands frères-là, ils sont réputés aussi pour faire ce qu'on appelle le baptême.
C'est quoi le baptême ? What the baptême ?
Le baptême, pour pouvoir prétendre dire que t'es du Pontifroid, pour pouvoir prétendre dire que t'es du Square Pie Mai, il faut être passé par le baptême.
Et les histoires de quartier d'Oxmo Puccino, dinguerie.
Le baptême, c'est quoi exactement ? Ça peut arriver n'importe quand. Donc ça peut faire le malin quand t'es en équipe et tout, jeter des marrons sur les grands frères et dire on vous baise, on vous emmerde. Un jour ils t'attraperont et et ce jour-là, ils te feront passer donc le baptême. À l'époque, j'habitais donc sous un porche, tu vois. Donc je passe du soleil au machin truc, et quand je passe sous le porche, c'est comme s'il y avait eu Sleepy Hollow, tu vois, il y a un éclair, tout est sombre et tout. D'un coup, tu vois, c'est...
Ça paraît comme dans l'équipe de Michael Jackson.
Ah, exactement.
Comme dans les films d'horreur, c'est les
zombies qui sortent comme ça exactement. Dans le monde. Une fois que je suis pris dans cet étau, je sais que c'est l'heure du baptême.
Ok.
Et donc, il m'attrape. Ah non, non, tu péflis, tu vois. Tu pleures même, il y en a qui pleurent. Je crois pas avoir pleuré, moi.
Tu penses que t'as pleuré? Non, t'as pas pleuré.
Non, j'ai crié. Non, là, j'ai crié. Ouais. Ah non. Ils se parlaient pas entre eux, tu vois. Ils étaient pas en mode... tu vois, ils étaient pas en train de discuter entre eux. C'est zéro émotion, zéro discussion. Robotique, hop, tchic, blanc. Ah, le froc qui béton. Humiliant, humiliant.
Ils font quoi? Ils t'attrapent par le cou?
Ils t'attrapent par les pieds.
Par les cheveux?
Par les pieds, par les chevilles.
Ils te mettent à l'envers?
Ils te mettent à l'envers, au-dessus du pont, et ils te pendent.
Dans le vide?
Dans le vide. Ils te pendent. Une éternité.
Et le pont, il est à quelle hauteur?
Le pont, il est trop haut déjà. C'est un pont, quoi. Après, il y a des voitures qui passent en dessous.
Donc... Ah ouais, d'accord, c'est un pont d'autoroute.
Non seulement t'as des voitures. Non, c'est une route. C'est une routelette. Ça roule. Ouais. Ça roule, mais ça roule tranquille. Ouais. Pas de sécurité, pas de mousqueton, pas de parachute. Si, le parachute, c'est là où tu t'en rends compte, c'est eux. C'est, en fait, ils vont jamais te lâcher, en fait. Mais s'il y en a un qui se loupe, qui t'attrape pas bien.
Un accident, quoi.
S'il y a un accident dans ce bail.
Et ils t'ont pendu...
C'est comme dans les films, frérot, quand ils veulent...
Quand ils veulent faire payer le mec.
Ils veulent faire payer un gars, un mauvais payeur. Ils disent, tu payes demain, allez vous faire enculer. Ils le pendent, stop, et ah ouais, ok, c'est bon, je vais payer. Ils le ressortent, voilà. Donc en gros, c'est ça qu'on me dit. On me dit, alors, enculé, t'as pas payé, qu'est-ce que tu veux, ils viennent m'embrouiller, quoi.
Et après ça ?
Ils te mettent au sol, t'es assommé, t'es choqué. Eux, ils te mettent de semi, ils se barrent.
Comme ça, quoi.
Pas en rigolant, en mode c'est bon, quoi.
Voilà, on t'a expliqué qu'on est capable. Quoi.
Non, voilà.
Ça, c'est pour dire, on t'a sous l'œil. On t'a à l'œil.
Là, c'est pire que t'as. Tes yeux, on te les a pris, gros.
À partir de là, en général, tout le monde se calme.
Calmé.
L'histoire de quartier, d'Oxmo Puccino.
Ils m'ont montré la mort, clairement. Ils m'ont dit, ouais. La mort, elle est là, gros.
Ouais.
Et en même temps, c'est les gars qui te donnent 10 francs à l'époque pour aller t'acheter des gâteaux, pour rester, pour t'avoir à l'œil ici.
Méchant gentil.
Je sais pas, c'est un truc pour moi très fort.
Après, t'as plus fait de conneries ?
Si. C'est à la fois une bénédiction et un accident, tu vois. Qu'est-ce que je vais en retenir ? Qu'est-ce que je vais. Donc, ouais, j'ai refait des conneries différemment, mais je sais pas. C'est un bon bail, je trouve. À l'époque, ma maman a eu cette initiative que de demander à des mecs en Santiago. C'est-à-dire aller voir des mecs encore plus chelous que moi, pour lui demander de prendre soin de moi. Je trouve ça brave et voilà, la morale, moi, c'est qu'aujourd'hui, ça m'a appris à être conscient, solidaire, ensemble, en tant qu'individu qui grandit dans un quartier avec des gens qui se connaissent de génération en génération. Quand tu vis ce truc-là, tu dois aussi le mériter, en bon comme en mauvais. C'est de la...
Une preuve initiatique.
Ouais, c'est ça, c'est chamanique, c'est ouais. Initiation. Ouais. Je sais pas si ça détermine toute ta personnalité par la suite, de vivre un truc comme ça, tu vois. Mais c'est clair que c'est là, quoi. La preuve, je vous en parle aujourd'hui.
Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino.
Lyrique, ça pèse, j'rappe les oiseaux stèse. Fais-toi plaisir, écoute ça avec ta daze. Ce matin, j'suis bien dans ma peau, j'ai la pêche, telle cette femme qui dame des parts de tarte par dizaines. Te dis pas frapper par un maléfice. Recommence ta vie à zéro quand je la redémarre à moins 10. J'suis né blasé sans un sou, puis brassé, me suis retrouvé sans issue. J'suis entré en collision avec mes obstacles. Tourne le pire à la dérision, l'offre en spectacle.
me dois de tout tuer pour ceux qui n'ont pas le choix. Ma chanson va pas sauver le monde, tant pis pour cette fois. Si j'avais entendu les profs, je serais pas le type dont on étudie l'écriture. Laisse les rires faire mon truc, me suis fixé ce but. Si j'arrive à mi-chemin, je ferai date comme ce tigre tué par un caniche nain. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour. À deux minutes de la victoire, on peut viser, tomber ta femme et son vison. Mais qui peut se vanter d'avoir touché l'horizon? J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison, avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison, avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. Je me sens encore ceux sur qui nul ne miserait. Autant de chapitres que de poils possède un bison. J'enchaîne les brochettes de problèmes, hyper qui t'esquive, crochet le revers de la médaille, c'est mon emblème. Tu déconnes avec tes tonnes de projets, ils vont encore s'entasser avec ceux de l'année prochaine. Viens, j'ai fait le plein de patience, y'a assez d'essence pour rouler jusqu'à l'horizon. Qui même me suivent amène les cuivres, les guitares, du pain et de l'huile d'olive. Le seul raccourci m'impose, ne suis pas les panneaux, rien indique la bonne destination. Action, laisse-moi kiffer ma passion, m'échapper car à chaque page, des marionnettes rêvent qu'on m'isole. Plus on est de fou, mieux on évite la camisole. Je te fais plein de feintes, pas de ceux qui démissionnent le plan. Je trouve en bas à gauche, juste après de Rémi-Sol. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison, avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison, avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison, avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frison, avance, laisse les claques sonner. Viens la vitesse de mon son frison.
Aujourd'hui on quitte la banlieue pour s'éloigner. S'éloigner parce qu'être en banlieue c'est déjà être loin, mais là on va plus loin. On quitte le bitume, on quitte le béton, on quitte tout ce truc de merde qui nous stresse pour aller vers la campagne. Aujourd'hui, je vais présenter Sylvie, tu vas voir, c'est un personnage de fou. C'est le feu et la flamme en même temps, le feu du phénix. Il n'y a que moi sur Terre qui l'appelle Mamour. Mamour parce que notre amitié va au-delà de ce que les gens peuvent se faire comme idée de ce que c'est des gens qui s'aiment. Votre définition est petite, voilà. À l'époque, elle connaissait le rap français en entier. Bah, y avait beaucoup moins de rappeurs qu'aujourd'hui, mais elle les connaissait tous quand même. En fait, elle les connaissait tous avant le rap. Chez elle, il y avait sa chambre et c'était un lieu de réunion. Tu pouvais rencontrer Kerry, Rof et Mokobé, on était là et puis on chillait chez Sylvie, quoi. Parce que déjà, on rigolait comme des fous. Et puis en plus, elle filmait tout le temps, elle prenait des photos tout le temps. Donc, quand je parle de mémoire, c'est vraiment une mémoire. Elle habite dans 7-7. À 30 minutes de Paris, selon la circulation, dans un petit village au milieu des champs. Je vous dirai pas où c'est parce que sinon vous allez déménager. Je voudrais juste qu'elle a eu raison. Parce que de toute façon, on reste qui on est, où qu'on soit.
Embrasser l'incertitude, tant qu'on souffle, se moquer des inquiétudes. Je trace un texte pas fléché, laisse-moi tranquille, on part pêcher.
Les poteaux, les poteaux.
Les gens, quand ils viennent dans le 77 et tout, ils disent « Ah, vas-y, laisse tomber, il y a trop d'heures de route. »
Alors c'est une demi-heure.
Voilà, c'est 30 minutes à tout casser. Et quand t'arrives là, tu dis « Putain, merde, ça existe. » Et oui, ma gueule, il y a des coins où ça vaut le coup. J'ai vécu dans le 93. Et au bout d'un moment, en plus avec le caractère que j'ai, je cherchais un coin où je pouvais être en paix. Là, tu vis, c'est agréable, c'est plaisant. Tu pourras toujours être émerveillé pour un rien. Nous, on a des signes du 1er janvier au 31 décembre dans la Marne. Et c'est un kiff total. On leur donne du pain. Non, mais c'est mignon.
Ça change de la vie d'avant.
C'est radical, là. Quand je retourne dans les coins comme le 9-3 ou quoi qu'est-ce, tu sais, tu vois plus avec les mêmes yeux.
Ah ben non.
Et t'es choqué. Tu ah ben dis, ouais, putain, ben c'est dans ça que tu vivais. Mais il y a de la tension partout.
On se bat, pour se tirer de là.
Mais maman, même les gens. C'est-à-dire qu'on vivait des trucs et nous, on trouvait que c'était normal. Et quand tu sors de là et tout, et même quand tu racontes aux gens, les gens, ils se sont choqués, ils disent « Mais non, mais non. » Et toi, tu dis « Mais tu racontes un truc tout balourd, quoi. » Et c'est ça, en fin de compte, c'est ça qui tue.
Ouais, ils sont un peu agressifs.
Non, c'est pas ça le truc. C'est quand tu viens pas de là, tu dis waouh, c'est chaud patate quand même. Mais c'est un kiff. Ça te forge, hein. Ah ouais, vivre dans le 9-3, ça te forge de ouf. Moi, quand je suis venu ici, j'ai apprécié des trucs que peut-être que les gens d'ici, tu sais, ils calculaient même pas. Comme le silence. Eux, pour eux, c'était normal. Moi, pour moi, c'était magnifique. Tu rentres, c'est calme. C'est-à-dire, tu rentres d'une journée oppressante, tu arrives ici, ton corps, à lui tout seul, il se décompresse. Ça n'a pas de prix.
Là, on fait l'interview dans ton jardin.
Oh, calme.
C'est bien. C'est bien de le dire.
Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une typique soirée de banlieue qui se part en cacahuète, mais comme on peut en avoir l'habitude, quoi. Tout simplement.
Ouais, ouais, comme ça arrive.
Tout simplement. Ouais, ouais. Et ce soir-là, c'était une soirée organisée par les gars du 9-3, organisée dans le 20-1. Et comme d'hab, ça se passe pas comme on a prévu. Truc de fou. Ça devait être dans les années 93-94. Ça devait être ça. On était partis en bande, comme d'hab. Chacun arrivait avec son équipe. Dans la soirée, bon son, bon délire. Nous, on est partis dans cette soirée parce que la personne qui organisait, on l'appelait Gros à l'époque. Gros, c'est comme un frère. Donc, quand un frère il fait quelque chose, tout le monde le suit, on le soutient. Il y avait, au niveau des invitations, il y avait beaucoup de gens du 9-3. Mais comme dans toutes les soirées, quand il y a une soirée qui se fait, si elle se fait dans le 20-1, il y aura autant de gens du 20-1, même s'ils ne sont pas invités. Donc voilà.
Surtout s'ils ne sont pas invités.
Surtout s'ils ne sont pas invités.
Mais moi, j'étais là. Vu que j'étais à un quart d'heure de chez moi,
voilà.
Moi, j'étais là. Même si c'était étrange de voir des gars, d'ailleurs, faire tu vois, une soirée à côté de chez moi. Parce que c'était très turbulent.
Non.
C'était très étrange de voir des gens d'ailleurs, quoi. Ça se faisait pas trop à l'époque. Et eux, ils connaissaient personne. Enfin, je crois que ouais, ils connaissaient personne.
C'était ouf.
Donc tu vois les vautours, ils entendent parler d'une soirée dans leur quartier qu'ils n'ont pas organisée eux. Mais ils vont voir ce qui se passe, quoi. Tu vois.
Exactement. Place des fêtes, j'avoue. Quand on arrive, même nous on comprend pas, mais on s'est dit, on vient sur Paname, on va délirer entre nous. On allait pour un délire, mais comme d'hab quoi. Bon son, ça se drague parce que des fois les gens sortaient entre eux, enfin bref. C'est bon délire, Mama franchement Lova. Bon délire.
Mama Lova. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison? Souvent beaucoup de mots m'a élevé, seul fidèle au poste. Pour ces gosses, peut même faire l'aumône. Tu peux bien zouker, être plein de flou, bête ou même fou. Jouer les beaux mais qui t'a le plus roué de coups. Dans le but de faire quelqu'un de bien unique. Qu'un inconnu évite de dire celui-là on nique. Elle m'a appris certaines choses de la vie. La rue reste, ne pas se presser taf. Mais jamais se laisser test. Trop difficile d'être paumé. Ici beau c'est un fils en tôle que le système s'efforce à gommer. A tous les lascars, pauvres, riches, dédicaces. Une bise sur les joues de maman, je les place. Toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouaga, Doudou, au fin fond du pays ou pour toutes les mères de Fouf. Où que ce soit de Ouaga, Doudou, au fin fond du pays ou pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouaga, Doudou, au fin fond du pays ou. Autant de love à tous les gosses. Assis sur son trône, je pose une couronne de rose sur son dos. Grandir sans peur c'est dur. Même si la mère persévère, ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la merde de la Côte d'Azur. Je dis qu'il faut profiter de sa présence tant qu'elle est là. Plutôt tard s'attraper en larmes sur l'absence. C'est pas facile à dire, l'amour est à ce prix là. Car rien n'est éternel, la vie te l'a pris hélas. Mes ex hobbies, les sexes. Phobies, faut dire, ça inquiète la mama, donc j'ai cessé. Car même le dernier des meurtriers à sa mère pour pleurer, crier son affection sans question. Faut que ce soir tu ranges ton gun, laisse ton shit, range les dangers, les risques. Car avant d'être un Scarla, t'es son fils. C'est pour toutes les mères de Scarla, où que ce soit de Ouaga, Doudou, au fin fond du pays. Ou pour toutes les mères de Fouf, où que ce soit de Ouaga, Doudou, au fin fond du pays.
Malgré tout ça, c'est assez barré en couilles. Comme dans toutes les soirées à l'époque.
Ouais, c'est vrai.
À un moment, on ne sait pas ce qui se passe. Mais le truc, c'est qu'on était dans l'ambiance et on sait qu'il y a un accrochage. Mais un accrochage, on se dit vite fait quoi. Les gens ils sont là, ça s'accroche, mais parce que entre couilles on va dire, ça se titille. Mais franchement, c'est des trucs qu'on a tout le temps dans les soirées. Donc c'est pas pour ça qu'on va se dire ça va vraiment se barrer en couilles.
Ça devait être un truc quoi, t'es pas chez toi ici, je sais pas ce qui s'est passé.
Mal parlé, un mal
mais
parlé.
Mais ça devait être un truc comme ça, un truc aussi simple que ça. Et
excuse-moi maman de te couper. Quand on dit un accrochage, un part mal à l'autre, celui qui part il dit je reviens.
Ouais, il dit attention. Je reviens. Et en fait, le « je reviens », moi, quand je te parle d'électricité, c'est électrique, « je reviens », il est relou.
Voilà.
Et le « je reviens », il est tellement relou que tous les mecs du quartier qui sont là, ils en parlent. Ils disent « oh, il revient, ils vont revenir, ils vont revenir ». Les mecs du quartier qui disent ça, d'autres mecs du quartier, « oh, ils vont revenir, ils vont revenir ». Et on sait que c'est sérieux.
Voilà.
Donc moi, je rentre dans la soirée, et je dis à « je vois gros », il m'amoure, je lui ai dit eh, « là, c'est chaud ».
Ouais.
Là, c'est chaud... faut partir, faut y aller là. Donc je vais en partant et je vois deux mecs, parce que moi je vois ça de l'extérieur, eux ils sont à l'intérieur, ils sont en train de danser. Je vois deux mecs qui arrivent, cagoulés, fusil de chasse, fusil à pompe, ils courent. Fils de pute ! Coup de pompe, coup,
voilà.
Coup de fusil dans la porte.
Ça tire à travers la porte.
Après, coup de pompe dans la porte, et là ça rentre et j'entends des coups de feu. Et je vois les mecs sortir en courant. J'entends des cris, j'entends la panique et tout. Moi, je suis dehors, devant la porte ouverte, défoncée. Et là, je rentre. Et je vois un mec par terre avec le dos, un trou dans le dos. Qui s'était fait tirer dessus, quoi. C'est un gars que je connaissais. J'étais avec lui à l'école. Ouais. Je l'ai pas revu après. Jamais revu après.
Jamais je ne l'ai revu.
Nous, on est à l'intérieur, donc comme je te dis, hein, soirée, bon délire, ça rigole, ça danse. Tout d'un coup, on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? On entend, ouais, ça tire, ça tire. On s'est dit, c'est quoi ce truc de fou? Et quand t'entends ça tire, mais que t'es à l'intérieur d'une soirée, écoute-moi bien, tu cherches l'endroit où tu vas te mettre à l'abri pour sauver ta life. Ça court de partout et il y a une phase qui arrive dans cette soirée, c'était du sucre. J'ai une copine, elle court et tout, elle va, elle rentre dans une fente et tout, on ne sait pas, dans la soirée, il y avait une fente. Elle passe dans la fente et tout, et nous, on la voit, on voit l'action. On fait, tu sais, on rigole parce que franchement, c'est ça qui est ouf. C'est qu'on sait que c'est une dinguerie qui se passe dans la salle, mais on vit en même temps des ambiances de malade. Ma copine, elle court, elle va dans la fente, on la regarde. On voit un gars du 9-4, je vais pas dire son blast, sinon je nique sa carrière. On voit un gars du 9-4 qui court, il voit ma copine glisser dans la fente, il la chope, il la tire, il la sort de la fente, il se glisse lui dans la fente pour se protéger. On avait mal au ventre, on a dit c'est impossible ce qui vient de se passer. On se tape des barres alors qu'on voit gros qui arrive. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Arrête, il nous dit arrête de rigoler, ça tire de partout, il faut que vous rentriez tout, sinon maman. Et là, c'est le zbeul. C'était la phase la plus croustillante. Donc il dit ouais, qu'est-ce que vous faites et tout, ça tire de partout, venez, faut qu'on rentre et tout, sinon maman, parce qu'on on était sous sa protection. Donc s'il nous arrivait quelque chose, c'était chaud pour sa gueule. Le truc, c'est quoi? C'est que moi, quand on va à sa soirée, ma mère, elle lui dit, ouais, voilà, tu emmènes les filles, tu ramènes les filles. C'est-à-dire que sa mission, c'était, on va en soirée, on s'éclate, mais tu nous ramènes, nickel. Et il y a ça qui se passe dans la soirée. Donc lui, un, il a notre responsabilité, il est en panique. Deux, c'est sa soirée, faut qu'il donne des explications. Donc il avait trop de pression sur lui. Donc lui, son but, c'était nous prendre, nous faire sortir de là et nous emmener à l'abri. Donc il vient nous chercher pour nous faire sortir. Quand on va pour sortir, non, faut pas, je rigole. On capte qu'il y a les flics qui sont arrivés. Donc, c'était un bourbier. Et les flics, ils mettent tout le monde contre le mur. Mais quand les flics, ils disent tout le monde contre le mur, notre groupe de filles, on commence à tilter. Il y a une de notre équipe qui avait une putain d'arme blanche dans son sac. Donc, si on la fouillait, qu'on chopait ça, on était dans la merde. Et elle a un réflexe. Pendant qu'on nous fouille, elle met sa main dans son sac, elle prend le couteau, elle casse. Le couteau, il devait être une arme blanche très fine, parce que ce jour-là, elle a eu tellement peur qu'elle a pris le manche, elle a pris la lame, elle l'a pété, ça s'est fait nature, camouflé dans le sac, propre. Quand les flics ont fini de la fouiller et on a vu qu'ils n'avaient rien trouvé, on était tellement légère, on était trop bien. Et franchement, là, on s'est dit, ça va, la soirée n'était pas catastrophique. Au final, ça va, tranquille. Ah, finesse. La soirée n'est pas finie parce qu'on nous a coupé dans notre délire. Il est peut-être 1h, 2h du matin. Qu'est-ce que tu fais à 1h, 2h du matin quand il n'y a pas de transport en commun? On est entre équipe, on marche, on se ressort l'ambiance de la soirée, des vannes de à l'ancienne et tout. Ça rigole, mais au bout d'un moment, on a froid.
Ouais, je m'en rappelle.
Au bout d'un moment, on a froid, on se dit merde, laisse tomber. Y a, dans une équipe, il y a toujours un qui arrive à ouvrir les halls des immeubles. Qu'est-ce qui se passe? On trouve un immeuble, on rentre. On s'assoit dans les escaliers et là, c'est la soirée qui commence. On appelle ça l'after. L'after. On se retrouve entre nous, on se tape des barres de rire et voilà quoi. C'est comme ça que nous, on a terminé notre soirée.
Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
C'était la vie.
C'était ça notre vie.
Ouais.
C'était ça. Et pour nous, c'était super banal même.
Ah ouais, ça arrivait très souvent. La paix, c'est mieux. Moi, quand je parle de paix, c'est pas pour faire semblant. Tu vois, c'est parce que j'ai connu d'autres normalités, tu vois, que je laisse derrière moi, bien sûr. Pour nous, c'était une soirée de presque tous les jours. Forcément, ça allait partir en couille. Forcément, ça allait finir en bagarre. Forcément, on n'allait pas aller jusqu'au bout de la nuit. Mais on espérait que ça ne tombe pas sur nous et puis qu'on rigole bien. Mais en même temps, quand tu as connu que ça, tu ne peux pas reprocher vraiment à la personne. Tu peux reprocher les actes, mais tu ne peux pas lui reprocher d'être ce qu'il est. Voilà. Il y a des mecs qui restent dans ce circuit de « Ah, la vie, c'est comme ça ». Voilà, ça, c'est nos soirées. C'est comme ça tout le temps. Heureusement, je sors plus.
Ah ouais, ça m'intéresse même pas. Si je veux faire des ambiances,
avec un jardin comme ça, tu sors pas.
On vient à la maison, on fait à graille, il y a du son, et il y a ce qu'il faut après, et franchement, tranquille. Franchement, la paix, c'est le luxe, c'est ça.
C'est juste les chemins, ils sont parfois douteux.
Tout à fait.
Mais au fond, c'est ce qu'on cherche à la base, la paix.
La paix.
Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino.
Ce qui m'a sauvé, c'est que je voulais pas faire de peine à mon père qui dit ce gosse, non je l'ai pas fait. J'ai trouvé ma voie le jour où j'ai pensé à tuer un homme, donc je suis bien placé pour parler de paix. J'évite de me répéter, alors je me tais. Lorsqu'il est trop tard pour bien faire, comment apprécier la paix sans la guerre? Comme la fin et le début, les deux font la paire. Je viens déclarer la paix sans heurts, quelques cartouches d'encre dans le chargeur, c'est l'arme de paix.
I guess I'm in the race, I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it through the days. I'm in
cette audace de parler de paix pendant la fin des temps, chanter contre ce futur sans précédent. Il le faut, ce monde c'est le nôtre. Je pense qu'on tire bénéfice du bien de l'autre. Inquiet, car au fond je sais, le malheur de l'un ne fait le bonheur de personne. Comprenez, guérir est la seule porte qu'on ne peut que périr sous la loi du plus fort. La patience est plus efficace que la force, raison pour laquelle je milite pas. Qui insulte la paix ne la mérite pas. Chacun touchera sa part de l'héritage. Aujourd'hui, on est dans le 9-4, Ivry sur Seine. On a Ivry et on va dans le salon. Le salon, c'est pas n'importe lequel, man. C'est celui de Fifou, tu vois. Tu peux pas parler d'image dans le rap sans donner le nom de Fifou. Ça fait plus de 20 piges qu'il est là. Booba, PNL, Maître Gims, Oxmo Puccino, PLK, Rof. Je sais pas s'il y a un rappeur français digne de ce nom qui n'a pas été photographié par Fifou, qui n'a pas été pocheté par Fifou. Et c'est ce qui lui a permis d'aller dans des quartiers où peut-être même moi, je ne mettrai pas les pieds. C'est-à-dire que t'habites dans une caravane, il va venir.
t'habites au milieu d'un conflit de deux pays donc que je ne nommerai pas, il en a rien à foutre, gilet pare-balles, ok, on y va. Tu vois ? Et ça, ça c'est respectable et surtout, ça te permet de vivre des histoires incroyables, dont celle-là, de laquelle il est sorti en vie. Voilà, j'ai spoilé. M'en fous, j'ai spoilé. Moi, j'ai spoilé. Ouais, il s'en sort en vie. Il est vivant, ouais.
Les histoires de quartier d'Oximo Poutino.
Moi, j'ai une particularité, c'est que j'aime vraiment le ghetto. J'ai été éduqué aussi par le ghetto, par des grands qui m'ont appris certains codes, par des anciens. Et c'est ces anciens-là qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, en fait. C'est que moi, mon premier travail, quand j'ai bossé avec Princesse Agnès, j'étais présenté par un mec. Il fallait pas prononcer son nom au téléphone, en fait, parce que il était sur écoute. Et ça, je le savais pas, tu vois.
Et visuellement, pourquoi t'aimes les ghettos, les quartiers ?
Alors, c'est peut-être un peu cliché, mais j'aime quand c'est texturé, j'aime quand c'est balafré, j'aime quand c'est édenté, j'aime quand il y a de la gueule. Je n'aime pas quand c'est trop lisse. Et donc, pour moi, le ghetto, c'est tout sauf lisse. Je vais être plus inspiré devant une voiture brûlée que devant une villa avec un beau jardin, quoi. Tu vois, en gros,
c'est de l'art contemporain.
Si on doit résumer. C'est de l'art contemporain, maintenant c'est devenu hype, heureusement.
Il y a de la poésie dans le...
Moi j'ai toujours réussi à trouver de la poésie dans les choses sombres. T'es un gangster, pas de problème, je te fais un beau portrait. Et le mec ça va le toucher quoi qu'il arrive. En fait moi j'étais le petit jeune proche des bandes, parce que j'étais très proche des requins juniors. À un moment donné, la plupart des requins ils faisaient la sécu de Joe Star et d'NTM. Donc moi tous les jeudis soirs j'étais chez Joey à Porte de Saint-Ouen. Avoir des choses incroyables, parce que c'était un sound system fou de voir Joe Star arriver avec Béatrice Dalle
avec des araignées
à 2h du mat avec des migales partout, tout ça. Donc moi jeune de 18 ans, ouais, c'était Euro Disney pour moi.
Alors il était une fois
Sarcelles. J'ai le petit frère de Galino, donc de Lino, du groupe Arsenic. Il me dit, écoute, j'ai un ami à moi de Sarcelles qui prépare un album. Il voudrait que tu réalises un de ses clips. C'était entre 2008 et 2010, il y a eu l'arrivée d'un appareil photo qui s'appelle le Canon 5D.
Ah ouais,
qui a été révolution. Pour nous tous une révolution. Pour pas grand chose, tu pouvais faire un clip. Et donc là, on va parler quand même d'une époque où avant que le rap devienne commercial et surtout l'arrivée du streaming payant, donc en gros de gagner sa vie avec les vues, économiquement c'était difficile. Et alors moi à ce moment-là, j'étais un peu une espèce de couteau suisse. Je faisais les photos, les logos, le merchandising et à un moment donné les clips. Parce qu'en gros, bah, tu donnais 200 euros de plus à Fifou, je te faisais un clip. Grosso modo, c'était ça. Une époque difficile, mais dans laquelle je me suis vraiment formé. Et donc voilà, je rencontre cet artiste qui est très très fort. Je ne donne pas son nom parce que ça va être une belle fin. En tout cas, son nom, c'est un clin d'œil incroyable à l'histoire. À cette époque-là, tout était instinctif. C'est-à-dire qu'il me dit, bah, viens, demain on va au quartier. Alors là, il n'y a pas de mood board, il n'y a pas de stylisme, il n'y a pas de repérage. On improvise totalement. Et à ce moment-là, en fait, j'avais recruté, je crois que j'avais pris un petit stagiaire qui sortait d'école de cinéma, qui était un très très bon monteur, qui s'appelle Kevin Mendibourg. Je pense qu'après cette histoire, il a arrêté les clips de rap. Et donc en gros, je lui dis, bah, écoute, si t'es chaud, demain on part à Sarcelles. Sarcelles, c'est un quartier que je connais très très bien parce que je connais beaucoup de grands là-bas. Donc pas de problème, les fixeurs, ils sont sur place. Je peux venir avec du matos, il n'y aura pas de souci, j'aurai une garde rapprochée. Donc on y va le matin, 10h, le mec il est là à 10h, formidable, tout se passe bien, beau soleil, on se retrouve sur un rooftop d'un bâtiment de Sarcelles, lumière de malade, je commence à prendre mon pied. C'est-à-dire que même le petit Kevin, il me dit « Oh là là, le gars il dégage à l'image, ça rappe sec ». Et donc on avait un horizon dégagé sur tout Paris, sur toute la région parisienne en fait, c'est-à-dire que c'était un panoramique de une vue en 360. On finit ce plan-là. L'artiste me dit, bah écoute, là t'as 2 heures pour préparer le prochain plan, parce que après je vais ramener pas mal d'artistes, des guests, donc je crois qu'il y avait Zesso, il y avait le petit frère de Lino et plein d'artistes, je crois qu'il y avait l'escadrille aussi. Et on arrive dans un sous-sol de parking, donc au troisième sous-sol, et là décor de film, des voitures à perte de vue brûlées. Et déjà je vois mon pote Kevin qui connaît pas du tout cet univers là.
Ouais.
Je vois dans son regard qu'il commence à avoir peur. Tu vois.
Peur.
Enfin, c'est quand même un décor glauque, on
oui,
va pas se mentir.
Oui, oui.
Ça pue la pisse, tout ça, tout ça. Et voilà, on se retrouve pendant une heure à mettre nos deux petites lumières dans ce parking. Et à chaque fois qu'il y a un bruit, je vois Kevin qui se retourne, il fait « Attends, il y a qui ?» Et puis moi, je commence à lui faire flipper. Je vois ici beaucoup de gitans, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et oui, ça me fait rigoler. En fait, c'est un peu son baptême de l'air, on va dire, tu vois. Et là, on est vraiment
dans la maison hantée.
Ouais, c'est la maison hantée. Vraiment, t'entends des bruits, tu vois des silhouettes au loin capuchées, tu sais pas ce qu'ils font, ils te regardent. T'entends des mecs qui vont comme ça. Et puis, dans tout quartier, t'as des, pas des codes, mais t'as des espèces de sifflets, tu vois. C'est un peu comme à Los Angeles, quand il y a les flics qui arrivent, les gens ils sifflent aux fenêtres. Donc t'entends ça un peu au loin, tu vois, t'entends des crissements de pneus. C'est un film, quoi.
La vie, quoi.
C'est la vie.
Mon Bouygues sonne, le boss, nouvelle mission. Comme toujours, c'est le top secret d'obsession. Donc je mets mon survêt white et tous ces gadgets. La blanche casquette de mon pote Bacardi Mike. Ma smoke mobile avec mes fausses locks. Direction le lieu du crime, des films prennent en photo. J'arrive dans la boîte de mille lointaines, plein de pointeurs qui font coin, 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 enfin faut au moins dans l'heure. Ici les jupes sont tellement courtes qu'elles sont hautes. Et souvent on lève les mains en criant oh. Bon, faut que je trouve la bombe avant qu'elle pète. Ou le boss va se fâcher, ça fera 7. Fois ce mois-ci, j'y vais 8 minutes par toute la nuit. T'es fou, voici la série Zouk. Nous savons tous qu'il y a un temps pour tout. Donc je prends ma pause, Nelly m'approche et me dit je suis ta chance, ton billet bingo, vas-y frotte-moi ce mot. Donc je la frotte et découvre que c'est pas le gros lot. Pendant ce temps, mon bionique, œil gauche, grille l'hétéro. Risque, j'essuie de l'œil sans trop risquer. Ma vie, je grille leur secret quand ils s'arrêtent près du bac à disque. Les mises de mes ennemis me kiffent. Déchire ma chemise, sniff mon temps, c'est ma pêche. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top secret. Le nom c'est OXMO, classé X, tel les mains, élément top
secret. Et là, tu tournes la tête une heure après, d'un coup, et ça c'est ce que je trouve magique, tu vois 100 personnes arriver. Des mecs capuchés, mais il y a limite une organisation dans ce bazar. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, en tout cas dans le rap. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas dans le désert. En tout cas, moi, je connais très bien le désert malien et j'ai été halluciné de voir parfois un Touareg passer, sortir d'une dune. Qu'est-ce que tu fais là ?
Ça, c'est...
Bah, honnêtement...
Ou des fois, tu prends le car et le chauffeur s'arrête au milieu de nulle part.
C'est ça.
Et la personne, elle descend du car et puis elle s'en va en marchant. Et tu ne sauras jamais où elle va parce que tu ne vois rien à l'horizon.
Bah, le rap, c'est pareil pour moi. T'as ce côté magique de l'instant T. Donc, il y a tous ces gars qui arrivent. Et là, moi, généralement, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Je dis aux gens comment se placer. Et que ça soit des mecs capuchés, bandana, avec des flingues ou tout ce que tu veux, ça pour moi, ça reste visuel, en fait. C'est difficile de dire ça, mais même si je cautionne pas forcément ça, j'arrive à sortir de ça et être que dans le visuel. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de demander à un gars de prendre son fusil à pompe et de tirer pour avoir une belle photo. Tu sais, ça m'est arrivé aussi de prendre en photo des escortes ou des prostituées. Bah, j'arrivais à oublier ça, en fait. Tu vois, c'est comme potentiellement, je sais pas, moi, un reporter de guerre, même s'il faut pas faire la comparaison par rapport au rap et tout, mais un reporter de guerre, je pense qu'à un moment donné, il arrive à oublier la tragédie qui l'entoure pour montrer des choses, quoi. Enfin, donc tous ces artistes arrivent et tous se mettent autour d'une voiture brûlée. Et je sais pas pourquoi, et ça c'est de ma faute, parce que tout ce qui arrive après, c'est quand même ma faute. À un moment donné, je dis à l'artiste, mais écoute, ça serait peut-être intéressant qu'à un moment donné, tu rappes et que tu commences à brûler la voiture. il faut savoir qu'on est dans un parking souterrain, donc en gros t'as à peine 2 mètres de hauteur, donc je me rends pas compte de
ça
peut être vraiment dangereux ce que je demande. Moi je veux juste faire du visuel encore une fois. Et bon, bah là on est quand même dans la street, et les mecs de la street, il y en a aucun qui m'a dit mais non c'est trop dangereux. Donc on commence le couplet, et là donc il brûle l'épave, donc c'était déjà une voiture brûlée, hein. Enfin c'était une carcasse vide, ouais. On arrête le plan au bout d'une minute. Parce que commence un brasier, mais vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que je m'y attendais vraiment pas. Et ça fait du bruit, en fait, les flammes. Et on entend on commence à sentir des crépitements. Et je vois, pour le coup, tous ses potes commencent à flipper, à partir en courant.
Okay.
Et donc là, gros stress. Vraiment gros stress. Et en fait, ce que je trouve impressionnant, moi, j'ai jamais vécu d'incendie. C'est mon premier incendie. C'est qu'en gros, t'as vraiment la fumée toxique qui est montée au plafond. Donc tu as une espèce de fumée noire opaque. Okay. Et tu la vois à vue d'œil arriver jusqu'au sol en fait. C'est-à-dire que tu te retrouves dans le noir direct. Et là, tu entends des cris au loin. Et donc là, tout le monde part. Et moi, je pars. C'est-à-dire qu'on arrive à se débrouiller. Et on arrive à tous se mettre dans des voitures. Parce qu'on est vraiment beaucoup. Hein. Donc moi, je me retrouve dans une voiture avec Tequila, justement, le petit frère d'Ino. Et on commence à partir. Et en fait, encore une fois, je fais une connerie. Je regarde par la fenêtre. Donc je vois ce brasier immense. Et tu vois les flammes qui commencent à aller sur les autres voitures. Mais je me dis, mais merde, il y a mon matos.
Bordel.
Tu vois ? Donc j'arrête la voiture. Et je leur fais, les gars, attendez-moi, je vais chercher le matos.
Et là, autour de vous, il y a du feu.
Il y a du feu partout, surtout de la fumée. Des pétards, des pneus qui explosent. Ça fait du bruit, un incendie. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'ai la vidéo du début du feu, quand tu vois ça, franchement c'est chaud. C'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que tu vois plus rien. Et donc je vais chercher le matos, je commence à prendre les flashs, et c'était sur des pieds. Je commence à les mettre sur mes épaules. Et à ce moment-là, je me retrouve dans un trou noir. Je suis dans l'obscurité totale. J'entends que des bruits. Et je me perds en fait. Et au loin, je vois même plus les phares des voitures. Et c'est un parking, c'est-à-dire que c'est vraiment sombre. Et jusqu'à présent, c'est bête, hein, mais j'avais encore un peu l'adrénaline du tournage, donc j'ai pas ressenti la peur. Et là, je commence à suffoquer, c'est-à-dire que j'arrive plus à respirer.
D'accord.
Et là, je commence à un peu paniquer. Souvent, on me dit que les gens qui décèdent dans un incendie meurent asphyxiés.
Ouais.
Et je me rappellerai toujours qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je vais mourir sur un clip de rap à Sarcelles. Je l'ai pensé, ça.
Ça, c'est complètement dingue.
Je l'ai vraiment pensé.
Je vais mourir ici, comme ça.
Ouais. Comme ça, tout de suite, rapide,
c'est
comme
con.
Ça.
C'est con.
C'est trop bête. Tu vois.
Pour naître de ma mère, j'ai pas attendu l'autre. Moi, je suis ma propre poutre. Je me soutiens seul, rien à foutre. Peu de liens noués. Noël, jour de l'an, je m'en fous. J'ai pas de clan, jamais ivre, esprit, jamais flou. Même quand je souris, tu verras mes dents de l'eau, tu pourras tout lire de ma douleur, de la canine à la molaire. T'y grandis la rue, t'apprends les dures lois. Tu vois un con qui dit, j'ai plein d'amis, dis-lui, te pure toi. Choisis bien pour qui tu vises, venge-le au minimum. Un ami qui se sauve, s'en va seul, laisse ses ennemis. Le mot ami marche avant le partage, je le jure. J'ai vu des ex, frangins qui pour la thune du shit se tuent. Les mêmes gens qui se moquaient, félicitent la légende vivante du rap géant. Jean-Jean Blanqui. Je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie. Je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie. Je te jure que c'est vrai ce que je dis. Ma vision de vie, survivre ma mission. C'est mes règles de vie. Je te jure que c'est vrai ce que je dis.
Et donc là, je commence à paniquer. Et au loin, j'arrive à voir un phare de voiture.
Ok.
Donc là, je laisse tomber les flashs. Hein. Je fonce et je retrouve donc la voiture de mes potes qui, eux, sont perdus dans la fumée. En fait, depuis 5 minutes, ils tournent.
Ok.
Tequila, il baisse la fenêtre. Je crois que Non, on l'a pas cassé. Mais il la baisse, limite. Et de toute façon, il le dit souvent, Tequila, le frère de Lino. Il me dit, Fifou, je t'ai sauvé la vie. C'est pas vrai, forcément, mais on a vécu un truc assez fort ensemble. Il a baissé la fenêtre, il m'a pris direct par le col. Parce qu'il est vraiment costaud et moi pas trop costaud, donc c'était rapide de me mettre en boule dans la voiture. Et là, à ce moment-là, donc il s'est passé peut-être 3 minutes hein, en vrai d'intervalle, il n'y a plus trop de rigolade dans la voiture. C'est-à-dire que là, tout le monde a peur. Ça brûle de partout. Et donc on arrive à trouver la sortie. Donc tu sais, c'est les tunnels de 3 étages pour remonter. Et donc là, on remonte et petit à petit, bon, la fumée se dissipe. Et en fait, quand on arrive à la sortie du parking, on sort de l'obscurité, moi ça faisait 3 heures quand même que j'étais dans ce parking, donc le soleil qui t'explose les yeux, on avait les visages noirs de fumée et de suie.
D'accord.
Quand on sort du parking, je vois peut-être 300-400 personnes dehors, tout le quartier qui est descendu, les pompiers, les hélicoptères, on se rend compte de la gravité de la chose en fait, parce qu'en gros, le parking a brûlé en fait, tu vois.
C'était déjà des voitures brûlées.
Des voitures brûlées, mais après les murs ont brûlé et ça a commencé
alors, à se propager.
C'était pas un brasier partout, mais en tout cas ça s'est propagé partout. Je cherche Kevin, je le vois en boule dans la rue, tout noir, en pleurs. Et c'était hardcore, vraiment lui ça l'a traumatisé, vraiment vraiment chaud. Et là moi j'ai des grands du quartier de Sarcelles qui m'appellent. Il fait Fifou, c'est quoi le bordel que t'as fait dans le quartier? Surtout maintenant là, dis à tes potes là, partez de là où vous êtes, parce que dans ce parking, il y a des cachettes de certaines choses.
Oh, oh là,
tu vois,
là,
je suis pas rentré dans les détails, oui. Mais c'était une sauce, tu vois.
Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino.
À partir de là, nous on se barre. Parce qu'on a peur, parce que les policiers, parce que... Enfin voilà, ça commence à être chaud. Donc tous les gens du clip, on part dans un studio à Sarcelles, un studio d'enregistrement, dans un petit pavillon, et on se retrouve là-bas, en stress, Kevin en pleurs. Ce qui est assez marrant, entre guillemets, de l'extérieur, c'est que je me rends compte que les gars du clip vivent pas ça comme quelque chose de difficile. C'est-à-dire que limite, on réfléchit au plan d'après,
ouais,
pour le clip.
Ah oui, il voulait enchaîner.
Oui, oui, c'est tournage. Ça. Il me dit, bah oui, il veut le rentabiliser. Donc le mec, il me dit, bon, écoute, on attend que ça se calme et tout, mais après, viens, on va tourner tout ça. À ce moment-là, je tourne la tête, je regarde Kevin. Kevin me fait, je veux rentrer chez moi. Je veux plus tourner, je veux plus cadrer. S'il te plaît, je te paye. Enfin, je pars. Et alors là, second rebondissement, on voit l'artiste un peu blême au téléphone. Je lui dis, alors. Ça s'est calmé, l'incendie, ils ont réussi à éteindre. Il fait non, il y a toujours l'incendie, les pompiers sont en train de l'éteindre, mais il y a un autre problème, encore plus grave, c'est qu'il y a une personne coincée dans le feu. Il y a un habitant de 60 ans qui est resté coincé dans les flammes. Donc là, très chaud. Homicide involontaire, à un moment donné, ça commence à être difficile, en fait, si jamais on arrive à ça.
Ouais.
Et on commence tous, ouais, à se projeter sur ça. On donc, Kevin, alors lui, il est par terre. Il me dit, je vais faire de la prison, il faut que j'appelle mes parents, tu vois. Moi, je commence à avoir peur, donc je me projette un peu. J'appelle mon ex de l'époque. Je lui dis, écoute, je sais pas vraiment si je rentre tout à l'heure. Au final, pour accélérer, pour pas faire créer trop de suspense, cet homme, il s'en sort grâce à la solidarité de beaucoup de jeunes du quartier. C'est-à-dire qu'en gros, il a rampé, il a réussi à passer à un endroit. Quand il est sorti dans les égouts, donc tous les jeunes du quartier l'aspergeaient d'eau pour pas qu'il ait trop chaud, tout ça.
Ah ouais, d'accord.
Et ils l'ont tous sorti de là. En tout cas, le gars, il a été sauvé. Le feu a été éteint. Donc au final, il y a peut-être 2-3 voitures qui ont été brûlées. Avec le recul...
Et vous avez pas été poursuivi, tout ça?
Non, bah alors, grande chance. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de poucaves.
Ça t'a pas proposé le problème de conscience?
Bah le jour J, tu te rends compte de la bêtise que t'as fait, tu vois. Donc, et de la gravité. De cet acte-là. Donc oui, forcément, autant je suis attiré par tout ce qui est
abîmé,
ghetto, tout ce que tu veux. Donc, parfois des endroits très violents, mais je suis contre la violence, vraiment. Et donc de savoir que j'ai pu créer quelque chose de dangereux pour quelqu'un, oui, ça forcément, j'étais vraiment très très mal. Après, j'ai quand même beaucoup travaillé dans les quartiers, j'ai vu des choses peut-être beaucoup plus graves que ça, et j'arrive
à relativiser
et à passer à autre chose à un moment donné. Par contre, ça passe par revenir le lendemain et d'aller discuter avec les gens. C'est-à-dire que je ne laisse pas le feu et après, ouais, je pars, il n'y a plus de nouvelles. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, et je m'en excuse pour tous ces habitants-là, ils ont été privés de parking pendant quelques temps. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Et donc le lendemain, moi, je repars clipper. Kevin, il ne vient pas forcément. Il me dit, si tu veux, je m'occupe du montage, mais chez moi, tranquille, dans le 15e. À un moment donné, pour faire le montage, il me dit, mais comment il s'appelle le rappeur? Et le rappeur s'appelle Rescapé. Voilà. R-S-K-P, que je big up de ouf.
Rescapé.
L'avure policière, grand clip.
L'histoire de quartier, d'Oxmo Puccino.
Encore l'exemple d'une journée dans les quartiers où tout est possible, en fait. Et toi, Ox, moi, c'est quelque chose, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation dans laquelle tu as ressenti vraiment de la peur, où t'as vraiment eu peur pour toi?
Moi, c'était les tirs, c'était au milieu d'une fusillade. T'es dans les escaliers, les coups de feu, ils se rapprochent, et tu te dis, putain, je vais mourir ici, quoi. Je vais mourir comme ça ici, putain. Voilà, c'est très étrange comme sensation, parce que tu sais que c'est peut-être ton moment, quoi. C'est très étrange, ouais. Dankeschön, Herr Fifou.
Merci, Aux.
Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino.
Le mec le plus
ricards que je connais si peu nier.
Trop longtemps resté la main tendue à mendier le bien. Vu que leur seul souhait est qu'ils squattent la tête, on jette en BEP quand ils souhaitent faire une fac de lettres. Bizarre comme les diplômes se ressemblent dans le ghetto. Bonhomme, t'as le crâne calciné par le feu d'eau. Ou quoi, en quel camp tu veux être, hein? Avec ceux qui empruntent sans dette ou ceux qui disent du cognac dans une Bugatti. C'est plus un mystère, les stars ici sont ceux qui visent bien. Je te parle pas d'études, mais de toi, connard. Si ton avenir est un livre, dommage pour l'encyclopédie que c'est. Les dernières pages soient les cages d'escalier. Et comme dans le hall, faut que tu palpes. On calcule la valeur qui saute à l'œil, celui qui a le plus de sable. Mais en vrai, on n'a pas de cash et peu de gens le savent. Car c'est l'illusion dans le même camp.
Et c'est chacun son camp.
Chacun son camp, chacun son camp.
La vie c'est chacun son camp.
Chacun son camp, chacun son camp.
Dis-moi que c'est faux.
C'est chacun son camp, chacun ses bancs.
Vas-y,
dis-moi que c'est pas chacun son camp, chacun son camp. C'est pas moi qui ai voulu, mais c'est chacun son camp.
Le monde est rond, mais se divise en continents. Qui se divise en pays, se divise en nombre d'hommes, se divise en camp. Définir son camp, une réponse au conflit. Maintenant tu connais la limite à pas franchir pour pas qu'on pende. Trop de conflits sont une question de camp. Et quand est-ce que tu te casses du coin que j'ai choisi de te prendre? Difficile partage à coups de missile là-bas, ici carnage ou couteau. Pour le haut qui vend mieux le shit, j'ai des amis dans chaque race. Ça n'empêche pas les Renois et les Rebeux de se patater pour un terrain de foot. À ce niveau-là, ça va encore, mais quand il y a un mort, bonjour les épisodes d'un feuilleton long comme Côte Ouest. Je me proclame l'élu qui rime au nom des exclus, surpris de subir la vie et de presque plus en pleurer. Je parle pour ceux qui pleurent des larmes rouges, d'avoir pris les armes, prouvant qu'on n'est pas du même camp.
Et c'est chacun son camp.
Chacun,
chacun son camp, chacun son camp.
La vie c'est chacun son camp.
Chacun son camp, chacun son camp.
Dis-moi que c'est faux.
C'est chacun son camp, chacun ses bancs.
Vas-y, dis-moi que c'est pas chacun son camp, chacun son camp.
C'est pas moi qui ai voulu, mais c'est chacun son camp.
La couleur peau n'est qu'une raison pour haïr un homme. Remarque mon homme, ils sont des autres causes chrome.
Bon, ça va.
Il n'y a que l'argent qui efface les différences, tout le monde le sait, c'est con, mais c'est vrai. De Times Square à Pont de Sèvres, les couples mixtes connaissent mon speech. Ou quand se marier devient le même dream que Martin Luther King. On veut pas d'elle ici, c'est pas du même pays. Sois pas d'aïe, Adélaïde, ta famille agit aussi ainsi. Un métis ne symbolise la paix qu'après sa venue au monde. Heureusement que l'amour se moque de la honte. Attendre tes 8 piges pour entendre des gens demander à ton teint qui sème la confusion dans quel camp t'es. Car c'est chacun son camp qu'on se dit camp. C'est comme ça que c'est jamais dit quand on bloque tes accès. Alors est-ce que t'aimes mon rap? Aime mon rap. Sinon choisis ton camp et ne te trompe pas.
Ouais mec, je suis peut-être pas dans le bon camp, mais je suis plus sûr que toi mec. Mec, si tu t'es trompé t'es quel mec? Moi c'est Oxmo, tu vois, j'en ai rien à foutre d'où tu viens mec. Moi j'ai grandi dans le 19, mon clan c'est un bon Black Mafia pour les ignares. Au début